Tous ici, nous voudrions sans doute un monde de paix. Il se trouve que le monde est dans l'état où il est.
Je ne joue pas sur les mots, je dis quelque chose de très précis.
Les choses ne vont pas se faire comme ça.
On vous licencie pour quelques années, puis vous reviendrez plus tard.
Chaque Français vit à moins de 300 km d'une centrale nucléaire.
Nos salaires ont baissé d'environ 25%.
Score maximum. Ça, c'est bon.
Chaque jeudi, à midi, retrouvez la rédaction de l'hebdomadaire Politis pour une chronique indépendante et engagée sur l'actualité politique et sociale.
Bonjour Michel Soudet.
Bonjour.
Alors, vous co-signez avec Vanina Delmas et Pauline Groll et Ingrid Merckx un article, un dossier dans Politis cette semaine qui s'appelle « Un dispositif ambigu » et qui concerne la création d'une nouvelle police de sécurité du quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc la police de sécurité du quotidien? Qu'est-ce que c'est? C'est une annonce qui a été dévoilée par le gouvernement le 8 février dernier?
Tout à fait. C'est d'abord une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui figurait dans les fascicules distribués sur tous les marchés et dans ses deux professions de foi, premier et deuxième tour. Il avait un dispositif d'ailleurs un peu plus radical puisqu'il aurait voulu que cette police soit très sécuritaire, dans le sens où il réclamait que les policiers puissent éloigner, décider de l'éloignement des quartiers des délinquants là où ils auraient sévi, tout ça uniquement sous le contrôle du juge, ce qui aurait été une grande nouveauté puisque c'est la police qui aurait pu décider de choses qui d'habitude se décident judiciairement. Dans le projet présenté par Gérard Collomb, dans une grand-messe de 2 heures avec moult intervenants, des vidéos, des questions-réponses, une communication extrêmement léchée, on n'a pas cet aspect-là, heureusement, c'est une bonne chose, un premier point. Mais par contre, on n'a pas non plus ce qu'on pourrait appeler le dessin d'une police de proximité. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est d'abord quelque chose d'expérimental, puisque ce qu'il met en place ne concernera qu'une trentaine de quartiers qui ont été choisis, on y reviendra, on ne sait trop comment, sur quelle base. D'abord, ça concernera 15 quartiers à partir de septembre 2018 et 15 autres en janvier 2019. Alors, dans ces quartiers, Gérard Collomb promet des effectifs supplémentaires, en renfort. Il compte y mettre 1300 hommes supplémentaires au total. Mais,
donc 15 à 30 policiers à chaque fois pour chaque quartier.
Oui, c'est à peu près ça, puisque il y a aussi dedans, il compte 500 effectifs qui iront renforcer la gendarmerie en zone rurale, singulièrement dans les régions Rhône-Alpes-Auvergne, en PACA, je crois. Ça, c'est un aspect gendarmerie qu'on n'a pas traité dans l'article. On a essayé quand même beaucoup de savoir un peu qu'est-ce que cette police allait pouvoir recouvrir. Et là, c'est quand même extrêmement flou. De l'aveu même du ministre hein, qui a fait ses annonces à la presse, a ensuite présenté la chose aux différents maires concernés en leur envoyant un courrier. Et dans ce courrier dont nous avons eu connaissance, on peut lire que le profil de ces renforts sera déterminé en lien étroit avec le chef du service local, selon que la priorité est à l'action judiciaire contre l'économie souterraine ou au renfort de la présence des policiers opérant sur la voie publique. Donc on voit très bien que ça peut être ou quelque chose qui va vers plus de sécuritaire, un renforcement des tâches de police répressive et peut-être aussi du saut dessus, et ou alors quelque chose de beaucoup plus proche d'une police de proximité. Tout cela n'est pas vraiment très très bien fixée.
Et ça pourra varier localement.
Oui, alors ça pourra varier localement, mais il y a un autre problème dans ce dispositif, c'est que quand on parle de quartier, c'est pas forcément un quartier. Par exemple, nous avons pris l'exemple en région parisienne de Asnières, Gennevilliers, Colombes, où là, trois quartiers pour la police n'en font qu'un. Or, c'est dans ces trois villes, un seul maire, le maire Les Républicains d'Asnières, avait réclamé un pouvoir bénéficier de ce dispositif pour accroître les effectifs de police. Le maire de Gennevilliers et la maire de Colombes, le maire de Gennevilliers communiste, la maire de Colombes Les Républicains, ont, dans des communiqués ou au téléphone auprès de nous, expliqué qu'ils avaient appris ça par la presse, que ça s'était fait sans aucune concertation. Et pour ce qui est de la maire de Colombes, elle aurait plutôt vu ce renforcement d'effectifs dans un autre quartier de sa ville, à l'opposé d'ailleurs, où là il y a véritablement beaucoup plus de problèmes que sur l'endroit ciblé.
Ça c'est sur la manière de faire qui est contestée par toute une partie des élus locaux. Mais d'abord pour finir de cerner un peu sur les missions, la fonction de cette police de sécurité du quotidien, vous faites souvent référence à la défunte police de proximité initiée par Jospin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, a priori, les différences ?
Les différences, c'est un peu compliqué, parce que la police de proximité sous Lionel Jospin a laissé un très mauvais souvenir dans la police, ou en tous les cas, surtout pour les syndicats de police, sans doute pour une raison de manque de moyens. C'est ce que nous expliquent quelques syndicalistes. C'était à la fois faire de la sécurité quotidienne, de la répression, et aussi il y avait dans cette police de proximité un volet prévention. Mais par manque de moyens, notamment sur ce volet-là, bien souvent, les policiers en étaient réduits à faire des pis-allers. Et Nicolas Sarkozy, arrivant au ministère de l'Intérieur en 2002, a extrêmement caricaturé la chose en disant que les policiers jouaient au foot avec les jeunes, c'est pas leur boulot, ils organisaient des tournois. Bon, c'était pas tout à fait ça. Ce qu'on pourrait entendre par police de proximité, c'est les gardiens de la paix qu'on a connus dans le passé, qui est pas si lointain, hein, une vingtaine d'années, où on avait encore ce qu'on appelait dans les commissariats des îlotiers qui patrouillaient dans un secteur de leur ville, connaissaient les gens, n'avaient pas besoin de multiplier les contrôles d'identité puisqu'ils savaient à qui ils s'adressaient. Ils faisaient traverser les rues aux gamins, aux petites mamies. Ils étaient en proximité totale avec la population, immergés dans un quartier, et ils savaient très très bien ce qui s'y passait. Ils pouvaient être dans des cadres d'enquête, des auxiliaires utiles pour savoir. Ils faisaient du renseignement, ils étaient bien placés pour savoir ce qui se passait. Et ils étaient aux aguets en même temps. Donc voilà, ce type de police a été remplacé par ce que les policiers disent du saut de dessus, notamment guidé par la politique du chiffre où il fallait faire des affaires et on a vu la multiplication des BAC, les brigades anticriminalité qui connaissent pas les gens mais débarquent dans des quartiers pour faire des interpellations, des contrôles dès qu'il y a le moindre problème signalé.
Et avec des objectifs statistiques.
Oui, tout à fait. Alors là, c'est plutôt la bonne nouvelle, semble-t-il, c'est que Gérard Collomb dit que la politique du chiffre s'est terminée, qu'il va y avoir d'autres moyens de juger de la qualité et du travail effectif de la police. Bon, au-delà des mots, là aussi, on demande à voir, et les policiers eux-mêmes demandent à voir, puisque il semble à la fois que c'est les objectifs chiffrés qui pouvaient être demandés seraient remplacés par des choses assez des évaluations assez similaires avec des indicateurs qui seront c'est un peu semblables à ceux utilisés par pour la fameuse politique du chiffre, hein, c'est ce que nous dit Alexandre Langlois du syndicat Vigie. Et l'autre aspect, ce serait de faire de demander à la population de juger du travail de la police, de sa satisfaction, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui se fait dans bon nombre d'entreprises publiques, de privées ou de services publics qui ont adopté les méthodes du privé. Donc, bon, là, c'est quelque chose à voir. Toujours est-il que c'est pas forcément une mauvaise piste, mais dans l'ensemble, ce qui est quand même très très étonnant, c'est que on a eu une grosse communication pour nous expliquer que la promesse d'Emmanuel Macron serait mise en œuvre, mais c'est pas pour tout de suite. Je vous l'ai dit, c'est les premières expérimentations commenceront en septembre 2018 dans des quartiers qui bien souvent étaient déjà des zones de sécurité prioritaire. Donc là aussi, personne ne sait si le nouveau dispositif va remplacer les zones de sécurité prioritaire ou va être quelque chose qui va se surajouter à ces zones de sécurité prioritaire. Ensuite, un des chercheurs que nous avons questionné nous craint que c'est le choix de ces zones de sécurité prioritaire où un travail soit déjà été mis en œuvre permette ensuite au gouvernement d'afficher des bons résultats puisque le travail est déjà commencé dans ces lieux-là. Donc la communication serait bénéfique. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement gênant dans la communication du gouvernement, c'est que ces quartiers sont dits des quartiers de reconquête républicaine. Et là, vous avez tout de suite tout ce qui est droite, réacosphère ou autre qui ont interprété ça comme, on met la police dans les territoires abandonnés de la République. C'est à la fois discriminant pour les gens qui se trouvent dans ces quartiers et pour ces quartiers où le plus souvent, l'abandon, c'est l'abandon des services publics, les écoles en recul, la fermeture du bureau de poste, des mairies annexes, ou toute chose qui donne pas l'impression qu'il y ait véritablement une égalité entre les populations.
Oui, c'est voilà c'est ce qui ressort de l'interview que vous faites de Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis, qui dit on n'est pas sur un territoire perdu de la République, mais sur un territoire qu'on abandonne.
Oui, tout à fait. Dans un quartier dans un secteur géographique assez proche, la députée de Paris, Danielle Obono, qui est députée du 18e, 19e arrondissement, dont un quartier d'ailleurs a été désigné comme justement ce quartier de reconquête républicaine, elle nous dit elle aussi que c'est ce qui se passe à Paris même, dans ces arrondissements nord.
Et par rapport toujours aux arbitrages qui ont été faits sur les territoires où vont se déployer cette police de sécurité du quotidien, la PSQ, justement, le député de Seine-Saint-Denis, Stéphane Peu, rappelle que la délinquance, que les problèmes de sécurité sont beaucoup plus criants en Seine-Saint-Denis et que pourtant son territoire est assez peu doté par rapport, par exemple, à d'autres quartiers de Paris qui ont déjà davantage d'effectifs de police.
Oui, tout à fait, c'est complètement exact. D'ailleurs, dans les quartiers annoncés comme bénéficiant du nouveau dispositif, on remarque que la Seine-Saint-Denis est peu représentée puisque il n'y aura d'expérimentation que sur Aulnay-sous-Bois, Sevran, c'est-à-dire dans un quartier qui avait été marqué par l'affaire Théo il y a un an, et c'est d'ailleurs à cette occasion que Emmanuel Macron aussi, il y a une grosse interrogation, mais j'irais dans le même sens que Stéphane Peu, puisque sur d'autres sujets, on remarque que le gouvernement est plutôt enclin à abandonner la Seine-Saint-Denis à son sort, considérant que ça ne vaut plus la peine d'investir sur ce territoire. C'est un peu dur ce que je dis, mais on a été mis au courant, par exemple, sur un lycée important d'Aubervilliers, où les enseignants ont fait plusieurs jours de grève parce que au rectorat, on leur a dit enlever un certain nombre de postes qu'ils avaient obtenus à l'issue de plusieurs luttes parce qu'ils sont en zone d'éducation prioritaire. Et on leur a enlevé avec cette explication, vos élèves sont à un tel niveau que c'est irrécupérable, il vaut mieux qu'on mette les effectifs ailleurs, là où ça peut être vraiment utile.
Et ça pose d'ailleurs, vous faites le parallèle avec les questions éducatives et de moyens pour les enseignants. Et là, on est face à la même question aussi. Est-ce que ça va être des policiers néophytes, inexpérimentés, les plus jeunes qui vont être mis sur ces territoires qui ne sont pas les plus évidents en termes de pratique? De la même manière que les professeurs qui sont dans les zones d'éducation prioritaires sont souvent les plus inexpérimentés.
C'est une des craintes, effectivement, que nous avons pu recueillir de la part de policiers, de chercheurs et des élus. Parce que le système des mutations est tel que les plus gradés, les plus expérimentés peuvent choisir où ils vont et ils sont peu enclins à faire ces choix-là. Rien n'est fait pour les y inciter. Et ensuite, le fait que ces déploiements soient annoncés pour plus tard, septembre, janvier, laisse à craindre que ce soit pour y mettre des jeunes tout frais sortis de l'école.
Merci Michel Soudet pour cet éclairage. On retient donc que c'est un dispositif qui pourrait être intéressant en soi, cette police de sécurité du quotidien, mais qu'il y a beaucoup de flou à la fois sur les missions de cette police, de l'opacité sur la mise en œuvre et la désignation des quartiers bénéficiaires de cette mesure, et puis encore des interrogations sur la formation des policiers qui seront déployés.
Tout à fait.
Merci à vous. Donc, je rappelle que l'hebdomadaire Politis est toujours disponible en kiosque et vous titrez cette semaine avec une grande question. La francophonie est-elle devenue has-been? On peut retrouver également tous vos contenus sur le site de Politis. Merci Michel Soudet encore. Bonne journée.
C'est moi qui vous remercie. Au revoir.